Le journal Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour. Didier Gayaguet démissionne, le président de la Fédération française des sports de glace, fragilisé par le scandale des violences sexuelles visant plusieurs entraîneurs, annonce qu'il se retire par souci d'apaisement, sans amertume aucune, mais tout en dénonçant une dictature ministérielle et une injustice, cette injustice dont il a fait l'objet ces derniers jours. 5 nouveaux cas de coronavirus en France, 4 adultes et un enfant, des Britanniques qui séjournaient à Contamine-Montjoie, en Haute-Savoie. Ils ont été hospitalisés dans la nuit. Leur état clinique ne présente aucun signe de gravité, précise la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Dans ce journal également, une 5e séance de travail pour les 150 Français de la Convention citoyenne sur le climat. Ils doivent rendre leurs travaux dans 2 mois. Nous en parlerons avec notre invité, l'un des experts en charge de l'animation des débats. Le début des vacances d'hiver pour la zone C, région parisienne et Occitanie, journée orange dans le sens des départs. Et puis des températures au-dessus des normes, nous dira Jean-Michel Golinski. Demain, alerte au vent violent dans la moitié nord.
France Inter.
C'était attendu, pour ne pas dire inévitable. Didier Gayaguet a donc présenté sa démission de la présidence de la Fédération des sports de glace. Fragilisé par le scandale des violences sexuelles mettant en cause différents entraîneurs, il avait convoqué ce matin le Conseil fédéral, seule instance pouvant décider de le soutenir ou de le destituer. L'intéressé, qui s'était jusqu'ici montré parfaitement inflexible, s'était montré plus ouvert ce matin dans un entretien au journal L'Équipe. Et donc, Vincent Pellegrini, vous êtes devant la Fédération nationale des sports de glace, et donc face aux pressions, l'inamovible président a donc fini par céder.
Effectivement, Yves, un conseil fédéral d'un peu plus de 2 heures, et puis Didier Gayaguet s'est présenté devant micros et caméras pour lire un discours d'un quart d'heure. C'était pas une conférence de presse. Il a défendu son bilan, lui qui a présidé la fédération pendant 20 ans. Il s'est de nouveau vigoureusement défendu des attaques dont il a été l'objet. Il n'était pas au courant des faits très graves qui ont été récemment dévoilés. La fédération n'est pas un ramassis de pervers sexuels, a-t-il dit. Il a de nouveau reconnu ses erreurs, mais il s'en est pris à la presse et à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Il a parlé de dictature du ministère. Et pour conclure son propos, Didier Gayaguet a annoncé sa démission par souci d'apaisement.
Après avoir dit haut et fort ma vérité sur ce qu'est notre belle fédération, et dans le souci de pur apaisement, j'ai pris avec philosophie, avec dignité, mais sans amertume aucune, devant son injustice, la tête haute, la sage décision de démissionner de mon poste de président de la fédération. Je souhaite bon vent à tous. Je resterai un fidèle à la passion amoureuse qui m'a authentiquement animé, celle des sports de glace et de ceux qui la font vivre, à savoir les présidents de clubs et les athlètes.
Et à ses côtés, tout à l'heure, il y avait Marie-Yvonne Del Torchio, c'est la présidente du Conseil fédéral. C'est elle qui va assurer l'intérim à la tête de la Fédération française des sports de glace. Et elle a dit qu'elle allait demander à rencontrer très rapidement la ministre des Sports.
Vincent Pellegrini avec Jérémy Thuile pour tout savoir sur les affaires qui ont émaillé la présidence Gayaguet depuis plus de 20 ans. Donc, rendez-vous sur franceinter.fr. Toutes ces affaires qui font dire ce matin à Gwendal Pezrat que l'importance n'est pas que Didier Gayaguet démissionne aujourd'hui. L'important, c'est qu'il ne revienne plus. Voilà, jugement sévère donc du champion olympique de patinage. 5 nouveaux cas de coronavirus constatés en France ces dernières heures, 4 adultes et un enfant, tous britanniques. L'annonce a été faite tout à l'heure par la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, selon laquelle aucun de ces nouveaux cas ne présente de signes de gravité.
Le cas initial nous a été signalé hier soir. Il s'agit d'un ressortissant britannique de retour de Singapour où il avait séjourné du 20 au 23 janvier. Il est arrivé le 24 janvier en France pour 4 jours et il a séjourné dans la commune de Contamine-Montjoie en Haute-Savoie. L'ensemble des cas positifs et les contacts de ce ressortissant britannique, des contacts proches, soit 11 personnes au total, tous de nationalité britannique, résidaient dans le même chalet et ils ont été hospitalisés cette nuit dans 3 hôpitaux, au CHU de Lyon, de Saint-Étienne et de Grenoble. Leur état clinique ne présente aucun signe de gravité.
Voilà, 5 cas qui viennent s'ajouter aux 6 déjà connus, dont un qui suscite cela beaucoup d'inquiétude. Alors c'est en Chine évidemment que l'épidémie reste la plus inquiétante, avec un bilan qui continue de s'alourdir. 722 morts à ce jour et près de 35 000 personnes contaminées. Bilan plus lourd désormais que l'épidémie de SARS en 2002-2003. Le coronavirus a fait sa première victime non chinoise, un Américain de 60 ans décédé à l'hôpital de Wuhan, la ville où le virus était apparu, Wuhan, où tous les habitants ont été depuis plusieurs jours confinés à domicile. Mais c'est partout dans le pays que les villes se sont mises au ralenti, y compris la capitale Pékin, où vivent de nombreux Français, qu'a rencontré Stéphane Pimbrun.
C'est l'un des quartiers les plus fréquentés de Pékin. Le quartier de Sanlitun, très prisé des Français, est désert. Depuis 10 jours maintenant, la plupart des habitants restent confinés chez eux. Ils ne sortent que pour acheter à manger, le visage barré d'un large masque de protection. Pour les restaurateurs français, c'est une catastrophe. Benjamin Devos est à la tête d'une chaîne de 15 boulangeries en Chine.
Aujourd'hui, ça se passe pas forcément très bien. Les rues sont désertes, on a quand même beaucoup moins de clients. Donc on espère juste que ça va pas durer trop longtemps.
Les Français n'ont pas accès au crédit en Chine et le gouvernement ne propose pour l'instant aucune aide aux entreprises. Seule obligation, payer ses employés, qu'ils viennent ou non travailler. Certains craignent déjà de devoir mettre la clé sous la porte. C'est le cas de Marianne Daquet qui a monté il y a 7 ans à Pékin une école d'art pour les enfants.
J'aurais tout perdu le projet de ma vie en Chine, ça fait 15 ans que je suis là, perdu le tremplin en quelque sorte pour la suite des événements. Après cette maladie, j'aurais plus rien.
Sans élèves et sans revenus, l'avenir est sombre pour elle, comme pour tous les entrepreneurs français qui ont tenté l'aventure chinoise. Si officiellement les entreprises pourraient rouvrir dès lundi, nul ne sait combien d'employés seront prêts à braver la peur du virus pour sortir dans les rues et se rendre au travail. Pékin, Stéphane Pimbrun, France Inter.
Et ce midi également, des milliers de voyageurs et membres d'équipage restent consignés sur 2 navires de croisière à Hong Kong et au Japon. 2 paquebots sur lesquels plusieurs passagers ont été testés positifs au virus. Tout le monde a été bien sûr consigné dans sa cabine. Dans l'actualité de ce samedi également, une nouvelle session de la Convention citoyenne sur le climat. Le 5e week-end de travail pour les 150 Français tirés au sort et qui devront remettre leurs propositions au président de la République en avril. À charge pour lui d'en tirer les conséquences, peut-être sous la forme d'un référendum. C'est ce dont on va parler avec vous, Sébastien Treyer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'IDRI, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, l'un des animateurs de cette convention citoyenne, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle travaille très dur. Ce ne sont pas des conversations de bistrot, mais un vrai travail en profondeur sur tous les sujets. Rappelez-nous comment ça fonctionne.
Oui, tout à fait. Alors, je voudrais juste préciser que je suis pas un animateur, mais un des experts qui ont été invités à accompagner les citoyens dans ce qui s'appelle un groupe d'appui, pour que, sur des sujets dont ils peuvent pas être des experts techniques, on puisse les aider à se repérer pour qu'ils puissent lire les sujets les plus importants. Et donc, le mandat qui a été donné à ces 150 citoyens, c'est de réfléchir aux mesures qui permettraient d'arriver à moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, dans une logique de justice sociale. Et ils travaillent à la fois sur tout ce qui concerne se nourrir, se loger, se déplacer, produire et travailler, consommer. Donc, vous voyez des sujets très différents et très larges. Et ils ont travaillé depuis les 5 sessions précédentes pour se faire une compréhension des enjeux techniques, économiques, sociaux, mais aussi juridiques. Et pour ça, ils ont rencontré une variété d'experts différents. Et moi, je tiens vraiment à rendre hommage à ces citoyens qui ont énormément travaillé, qui ont parcouru un chemin impressionnant. Et aujourd'hui, ils sont au stade où ils se sont fait un avis, leur propre avis, sur quels sont les principaux sujets à traiter. Et ils nous ont donné à nous, groupe d'appui, ce qui pouvons leur faire des propositions un peu expertes. Ils nous ont dit des idées très claires de quelles étaient leurs intentions de mesures qui permettraient de déverrouiller les sujets.
Donnez-nous quelques exemples.
Alors je ne peux pas vous délivrer le contenu des mesures sur lesquelles les citoyens travaillent. Julien Blanchet pour le Conseil économique et social qui est dans le comité de gouvernance a bien dit, il faut qu'un minimum de secret sur le détail. Je peux vous dire quand même dans l'ensemble qu'il y a des sujets très intéressants sur la rénovation du bâtiment, sur la question des politiques de transport, sur les questions de est-ce qu'il faut ou pas réguler la publicité, et sur l'alimentation qui est celui que j'ai un peu plus suivi, des questions sur, à la fois sur la politique agricole commune et sur les rapports entre les acteurs économiques dans les filières. Donc vous voyez que ça suppose
alors,
pour les... beaucoup de choses.
En tout cas, on a entendu les témoignages unanimes des 150 citoyens qui travaillent. Tous nous disent qu'ils veulent proposer des mesures radicales et pas des mesurettes.
Exactement. Ce qu'il y a, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'il faut accumuler beaucoup de mesures pour faire changer le système. Et donc, il faut surtout pas s'attendre à ce que les citoyens brandissent la mesure qui va tout transformer. Par contre, ils ont vraiment réussi à voir que si on veut faire bouger le système, le système énergétique ou nos filières alimentaires, il faut les prendre de plusieurs côtés à la fois pour les faire bouger. Et puis, c'est vrai qu'ils ont aussi des intentions de mettre l'environnement haut à l'agenda de notre système juridique.
Alors justement, quelles assurances pour la suite, hein ? On parle d'un référendum à questions multiples. C'est quoi l'espoir ?
Moi, je pense, encore une fois, il y a une variété de mesures, comme je vous l'ai dit, et il y en a qui pourraient faire l'objet de décrets, d'autres qui pourraient être l'objet de lois, et d'autres qui pourraient faire l'objet de questions référendaires. Et je pense qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur la question référendaire. Il y aura des choses, à mon avis, très fortes dans ce que les citoyens vont pouvoir proposer dans les différents secteurs dont je viens de parler, sur des choses qui pourraient faire l'objet d'une loi que le président Macron, je vais essayer de pas transformer ses propos, mais s'est engagé à transmettre directement au Parlement, et donc il me semble qu'il y a une variété de sujets où on va avoir une convention citoyenne qui va pouvoir transformer ce qu'on fait en France et donner les moyens au gouvernement de se saisir de propositions très très opérationnelles.
Bon, eh bien vous êtes optimiste, on l'entend. Merci beaucoup Sébastien Treillère, directeur général de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
À l'étranger, le Premier ministre d'Irlande sur un siège éjectable. Léo Varadkar n'avait pas la cote dans les derniers sondages, notamment chez les jeunes de 25-35 ans. Il pourrait être battu ce soir à l'issue des législatives anticipées. Les jeunes Irlandais qui viennent de subir 10 ans d'austérité accusent le gouvernement d'avoir sacrifié les secteurs du logement et de la santé. Antoine Gignot à Dublin.
Son rendez-vous à l'hôpital, Patrick l'a attendu 5 mois. Électricien à la retraite, il n'a pas eu vraiment le choix.
Pour les opérations courantes, opérations de la hanche ou du genou, ce genre de choses, vous pouvez attendre 2 ans. Ça, ce n'est pas juste.
Un sentiment d'injustice qui s'est renforcé cet hiver avec des urgences saturées. Rory Fitzgerald est infirmier à Dublin.
Le service public ne s'est pas vraiment remis de la crise boursière de 2010. Il y a un manque de financement, mais le gouvernement pourrait faire plus. Le pays a besoin de changement.
Face au manque de moyens du service public, face au manque de logements, le Brexit est vu comme une menace supplémentaire. Michael Collins est le directeur de l'Institut des Affaires internationales et européennes.
Évidemment qu'il y a de l'inquiétude. Nous avons réussi à nous extirper d'une situation catastrophique. On se rapproche du plein emploi avec un budget à l'équilibre et un très très bon taux de croissance. Mais clairement, ce n'est pas terminé. Et on aurait vraiment préféré ne pas devoir gérer le Brexit en même temps. La future relation avec Londres est d'une importance fondamentale pour
l'Irlande. Car le Royaume-Uni reste aujourd'hui le premier partenaire économique de Dublin. Un retour aux règles de l'OMC avec des taxes et des contrôles douaniers auraient un impact colossal sur le commerce. Dublin, Antoine Gignot, France Inter.
En Allemagne, elle n'avait pas apprécié l'alliance de son parti avec l'extrême droite dans l'état de Thuringe. La chancelière Angela Merkel a congédié ce matin le commissaire du gouvernement aux états régionaux de l'Est du pays, lequel s'était félicité de cette victoire en Thuringe, qui avait donc été remportée grâce aux voix de l'AFD, le parti de l'extrême droite allemande. En France, une star du barreau, derrière les barreaux. Un avocat d'Aix-en-Provence, Jean-Louis Keïta, a été mis en examen et écroué pour révélation d'informations sur une enquête à personne susceptible d'y être impliqué. Une décision suffisamment rare pour être signalée, Fabien Ledu.
Oui, une décision très rare que celle d'incarcérer un avocat, Jean-Louis Keïta, qui a notamment défendu Omar Haddad, Patrick Henry ou Jacques Vergès. Ancien bâtonnier d'Aix-en-Provence, il avait arboré sa célèbre moustache sur ses affiches de campagne quand il s'est présenté aux élections municipales d'Aix-en-Provence en 2013. Jean-Louis Keïta, qui est mis en examen pour violation du secret professionnel et révélation d'informations, mais pas sur une petite affaire, sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement et qui relève de la criminalité criminalité ou de la délinquance organisée. Autrement dit, il aurait rencardé une connaissance de l'avancée de la justice dans un dossier très important, une infraction passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Fabien Ledoux. Dans un instant, le point route. C'est aujourd'hui le début des vacances d'hiver pour la zone C, région parisienne et Occitanie. Les premières à partir, ça peut être difficile en Vallée du Rhône, bien que les Français soient assez peu nombreux à partir au sport d'hiver. Moins de 10% d'entre eux, comme le disait ce matin sur France Info l'une des responsables du CREDOC, le Centre de Recherche et d'Études sur les Conditions de Vie, Sandra Aubian.
On a déjà que 60% des Français qui partent en vacances. Et puis ensuite, si on va sur les vacances d'hiver, on est sur 17% qui partent en hiver, au moins un an sur deux. Et alors quand on va sur les vacances vraiment de sport d'hiver, effectivement, on est sur moins de 10% de la population, avec des populations qui où les taux sont encore bien inférieurs, comme par exemple des personnes plus âgées ou avec des bas revenus. Le premier frein au départ en vacances, de manière générale, ce sont des freins économiques, effectivement, et c'est encore plus vrai pour le départ en vacances d'hiver, et notamment au sport d'hiver. Mmh. Après, il y a quand même d'autres types de freins au départ en vacances, et notamment les questions de santé et de forme physique. Hein. Pour faire des sports d'hiver, il faut quand même avoir un bon état de santé. Et il y a également aussi aujourd'hui une diversification des goûts. Et disons que le modèle de la station de ski des années 80 a un peu vécu, et aujourd'hui, on peut aussi partir à la montagne et faire autre chose.
Voilà, c'est une minorité qui part, mais ça peut faire du monde sur les routes. Nolwenn Kiok, vous êtes au PC Mobilité de Radio France. Ce samedi est classé orange dans le sens des départs.
Oui, et ça bouchonne sur l'A43 en direction de Chambéry. À partir de la Tour du Pin, vous roulez en accordéon jusqu'à la barrière de péage de Chambéry Nord. Les difficultés continuent si vous allez vers Albertville avec un bouchon de 12 km. Et d'après les prévisions de Bison Futé, le trafic devrait rester dense jusqu'à 18h. Beaucoup de monde aussi sur l'A48, juste avant d'arriver à Grenoble en venant de Lyon. Ça bouchonne sur 7 km jusqu'à Échirolle. Et puis un peu plus au nord, sur l'A6 en direction de Lyon. Attention, un accident s'est produit un peu après Auxerre, ce qui entraîne un bouchon de 2 km.
Nolwenn Kiok, au PC Mobilité de Radio France, à propos de ski. Première manche du slalom de Coupe du Monde à Chamonix ce matin. Les deux Français, Clément Noël et Alexis Pinturo, sont parfaitement placés pour envisager un podium. Deuxième et quatrième, c'est le Suisse Daniel Yule qui a signé le meilleur temps. Allez, c'est à lire ce week-end pour les amateurs de romans graphiques. Il était en vedette au dernier festival de la BD d'Angoulême. Jo Sacco fait un retour très remarqué 10 ans après son Gaza 56. Il nous amène au Canada dans l'histoire du peuple d'aîné au nord-ouest du pays. Son livre Payer la terre raconte la confiscation des terres par le gouvernement canadien. Jacqueline Petros.
C'est presque un documentaire que nous propose Jo Sacco. En noir et blanc, cases serrées, plans larges, gros plans, le cadrage est la dynamique d'un film. On s'enfonce dans le Grand Nord canadien, pays rude où le peuple d'aînés est installé depuis des temps immémoriaux. Les premières pages racontent cette époque où les familles vivaient au cœur de la nature et en communauté. En une génération, tout change quand les compagnies pétrolières obtiennent l'exploitation du sous-sol puis imposent la fragmentation hydraulique. Jo Sacco interroge les pros et anti-forages, la société que ce peuple formait s'est aussi fracturé sur ce problème. L'alcoolisme, la drogue, la prostitution sont venus avec l'argent qui permet aussi de construire les écoles, les gymnases et les routes. Sacco ramène le bruit des camions, les images des tuyaux et des derricks, les pleurs des enfants envoyés de force au pensionnat, mais aussi l'ombre des regards, la beauté des immensités, la force des traditions que les jeunes reprennent en résistance. Cette BD reportage dresse un constat bien sombre, tant économique qu'écologique. Mais comme à chaque fois, Jo Sacco, lui, nous parle de l'humain.
Voilà, Payer la terre par Jo Sacco aux éditions Futuropolis et 21. Autre conseil pour ce week-end, la 30e édition du festival Présence à Radio France. Festival consacré à la musique contemporaine avec à l'honneur le compositeur britannique George Benjamin. Concert à retrouver en streaming sur le site de France Musique. Le festival se poursuivra jusqu'au 16 février. Et puis dans le Grand Est, version hivernale des Eurockéennes de Belfort. C'est le festival générique. Tout ce week-end à Dijon, Belfort, Mulhouse, Besançon, programmation rock, rap et électro. Enfin, à propos de rock, la mauvaise nouvelle, c'est l'annonce par le chanteur belge Arnaud ce matin qu'il était atteint d'un cancer du pancréas. Arnaud qui va devoir reporter quelques concerts de sa tournée. Il a 70 ans, Arnaud. Il sera mardi au Trianon à Paris avant d'être opéré à Bruxelles. Le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Dans des températures souvent au-dessus des normes, vers 11 degrés de moyenne cet après-midi dans la moitié nord, 15 au sud, des entrées maritimes et quelques gouttes vont émailler le ciel du golfe du Lion, des pluies faibles également du nord de la Nouvelle-Aquitaine remontant vers le centre, la région parisienne et la frontière belge, ailleurs temps plutôt sec et même variablement ensoleillé. Demain, toute la moitié nord du pays verra passer des vents violents accompagnés de pluie avec déjà en fin de matinée des rafales à 100 km à l'heure près de la Manche. L'après-midi, le soir et la nuit suivante, les rafales iront crescendo avec des pointes à 100 km à l'heure entre la Seine et la Loire, 120 possible vers la Seine-Maritime, les Hauts-de-France et les Ardennes, 120-140 sur les côtes. Dans l'est et dans la moitié sud, le vent sera beaucoup plus raisonnable, mais il entraînera toujours des entrées maritimes importantes dans le golfe du Lion et maintiendra un temps plutôt ensoleillé du sud-ouest au Massif central et de l'est du Rhône en remontant vers l'Alsace et la Bourgogne.